Municipal J-12, donc avant le premier tour, premier de nos rendez-vous, 9h45-10h15, avec les candidats donc à Mont-de-Marsan en premier lieu. Charles Daillot et la liste 100% pour les Montois, comme ses adversaires. Le maire sortant sera interrogé notamment sur des thématiques comme la démocratie locale, l'écologie, la culture et le centre-ville de Mont-de-Marsan. Questionné également sur les noms de ses colistiers et les grands absents de ce scrutin, parmi lesquels Bertrand Tortel. L'actuel adjoint au commerce, a-t-il payé le fiasco des Halles de la Madeleine? Non, affirme Charles Daillot, qui d'ailleurs prévient de l'annonce le 9 mars prochain par la société Biltoki d'une refonte totale du concept des Halles. Alors concernant ce qui doit devenir l'une des autres locomotives du centre-ville, les nouvelles galeries, les 4 ou 5 donc prétendants à l'exploitation du bâtiment historique montois devraient, suivant un cahier des charges bien précis, rendre leur copie d'ici avril ou mai. À quoi peut-on s'attendre? On écoute Charles Daillot.
D'abord, c'est pas que les nouvelles galeries. C'est tout un îlot. On a recomposé l'îlot qui, entre la mairie et les nouvelles galeries, c'est pratiquement 13 parcelles. Il nous en manque 2, je crois. Donc on raisonne en îlot et non pas en rénovation d'un seul bâtiment. Ce bâtiment, il est emblématique. Il fait 850 m² au sol sur 3 niveaux. Vous voyez qu'en hyper cœur de ville, c'est une surface importante. Dedans, on peut y trouver du commerce en bas. On peut y trouver un lieu de culture éventuellement. Ça peut être un espace de réunion de culture en bas. Il peut y avoir du bureau en haut. Il peut y avoir du logement, il peut même y avoir peut-être de l'hôtellerie. Voilà ce qui peut arriver là-dessus. On n'exclut pas d'avoir aussi une connexion entre la mairie et ce bâtiment-là. Au milieu, par le biais de travaux et de réfléchir un petit peu au découpage qui est entre des bâtiments qui sont entre la mairie et les nouvelles galeries, il peut très bien y avoir un lieu de passage, un lieu aussi un petit peu public, un lieu de repos, pourquoi pas un lieu de transit. C'est un espace qui est stratégique pour faire la liaison entre le haut de la ville, rue Sadi Carnot, le marché, et le bas de la ville, la place du théâtre. Parce que c'est vrai que cette continuité, on a l'impression que c'est un peu séparé. Il faut qu'on arrive à assurer cette continuité entre le haut et le bas. Et ce cœur du cœur de ville, qui est l'îlot des Nouvelles Galeries, doit pouvoir le permettre.
Sur cet îlot, justement, il était question de que ça soit peut-être piéton. Il était question aussi peut-être de repenser le lien entre les arènes et la place Pankow. Pourquoi pas piéton? Mais alors, les automobilistes vont dire évidemment, où c'est qu'on se gare, mon bon monsieur?
Le parti pris que nous avons sur cette ville moyenne, même si les néo-montois ou même les personnes qui sont peut-être sur Bordeaux ou dans des villes un peu plus importantes voudraient peut-être parfois tout piétoniser, le parti pris que nous avons, c'est de ne pas piétoniser la rue Gambetta. On s'appuie sur ce que nous disent les riverains, les commerçants. Donc cette rue Gambetta, elle restera passante pour le moment et roulante avec des voitures. Après, on a des rues adjacentes ou parallèles qui peuvent devenir piétonnes ou semi-piétonnes. C'est déjà le cas de la rue de la place Saint-Roch à la mairie, rue Casayas, etc. Cet espace-là, on voit bien qu'il y a une cinquantaine de voitures qui passent par jour. Elle est quasiment piétonne. On s'aperçoit que quand on se balade au milieu de cette route, on ne prend quand même pas beaucoup de risques. Donc c'est important que cette rue-là soit qualifiée comme ça, parce qu'en plus on voit qu'en perpendiculaire on a aussi d'autres rues qui sont déjà piétonnes, celles des Nouvelles Galeries, celles de là où il y a Bulle d'Ancre, etc. Toutes ces rues-là qui sont déjà
les Baseilles,
qui sont traitées de façon piétonne. Donc on peut apaiser la circulation et la rendre un peu plus douce et plus piétonnière à cet endroit-là. C'est crucial parce qu'on sait très bien que sur l'îlot du Collège de la Croix-Blanche, nous allons avoir des logements qui vont être là, des habitudes de vie qui vont changer, des personnes qui vont circuler. Et donc, en effet, il peut y avoir quelque chose d'un peu piéton qui peut passer au travers peut-être des nouvelles galeries pour pouvoir avoir un accès et que les gens s'approprient cet espace-là. On peut aussi réfléchir à un changement de sens sur la rue Frédéric Bastiat, puisque quand on est rue Frédéric Bastiat, on tourne le dos aux nouvelles galeries. Peut-être que demain, on pourra réfléchir à autre chose et rentrer dans le cœur de ville par la rue Frédéric Bastiat. Tout ça s'étudie. On étudie également, dans ce plan-là, la reconfiguration de la place Pankow et surtout du bas de la place Pankow. Je reconnais assez facilement qu'il est compliqué, quand on arrive au bout de la rue Frédéric Bastiat, de traverser, d'aller vers la rue du Maréchal Bosquet, qui devient une artère intéressante, un petit peu avec des commerces très identifiés.
Il y avait eu un plan comme ça.
On avait un plan sur la place Pankow qui était plutôt lié au parking, etc., ouais. qui avait été refusé, ou du moins on avait interrogé la population, les riverains, les commerçants, qui ne souhaitaient pas que l'on fasse ces travaux-là. C'est pour ça n'avait pas été fait, ouais. Parce qu'on tient compte aussi de la vie quand même des citoyens. Là, il ne s'agit pas de revenir sur ce plan-là, mais simplement d'assurer une sorte de continuité entre le centre-ville et la rue du Maréchal Bosquet, pour avoir l'impression de ne pas passer dans deux espaces différents et de sécuriser, d'apaiser aussi les traversées piétonnes qui sont au bas de la place Pankow. Donc là, il y a tout un travail qui peut se faire de façon à avoir l'impression, quand on est rue Frédéric Bastiat, de pouvoir continuer à cheminer vers les berges, vers la rue du Maréchal Bosquet, rue du Maréchal Bosquet, où on installera, à la place de la boulangerie ou pâtisserie d'Aroux, on va nettoyer cet espace-là. Il y a un bassin d'orage qui va s'y loger, et au-dessus, on mettra une plaque panoramique pour y faire un espace là, de détente avec vue sur la rivière qui va aérer un peu cette rue du Maréchal Bosquet.
Du centre-ville aux entrées du Moon, direction la zone de Malage, sujette à bien des passes d'armes entre majorité et opposition à propos du transfert de l'enseigne Carrefour, donc au nord-est de la ville. Dernier rebondissement, 8 ans après avoir été mis sur les rails, le projet a été en décembre dernier abandonné. À la place, dans le programme de Charles Daillaud, je cite, l'implantation d'une ferme urbaine à vocation pédagogique destinée à alimenter nos écoles en circuit court, fin de citation, ou comment passer du vert du dollar au vert écologique, explication de ce revirement.
La politique locale, c'est pas camper sur des positions et des dogmes, c'est parfois aussi s'adapter en fonction des situations. C'est le cas pour cette zone de Malage, qui là encore, je le rappelle, c'est plusieurs hectares qui ont été acquis par la collectivité à un très très bon prix et qui constituent une réserve foncière pour les années à venir et les générations futures. On ne travaille pas sur le court terme. Il est vrai que ce projet-là pouvait accueillir, à un moment donné, le déplacement d'une grande surface que vous connaissez, qui est au nord de la ville, Carrefour pour ne pas la nommer. Les choses ne se sont pas faites ainsi. Il faut savoir que c'était une discussion à trois, que Carrefour ne souhaitait plus s'inscrire dans ce projet-là. Il y a d'autres éléments qui ont fait que, et notamment la priorité que je donne et que nous donnons à la redynamisation du centre-ville. Tous ces éléments-là font que le site de Malage existe toujours, le projet existe toujours, mais sa réorientation se fera sur deux angles. La première, c'est sur un bandeau qui se situe non loin des zones d'activité. Ça nous fait de la réserve foncière parce que quand nous aurons fini de vendre les lots de Mamoura, de la faisanderie, etc., ben nous aurons encore de la place pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises artisanales et autres. Et puis, il y a une autre partie de cette réserve-là qui est beaucoup plus un corridor un petit peu écologique, plus naturel, qui nous permet, et nous avons l'intention d'y implanter un projet agricole vertueux. Alors on parle de ferme urbaine, de ferme bio, c'est surtout une exploitation agricole vertueuse, c'est-à-dire en matière de production, orientée vers le bio, se servir de ça aussi pour faire de l'insertion et de la pédagogie auprès des enfants. L'idée, c'est de pouvoir miser sur cet espace-là, en accord et en partenariat avec le conseil départemental qui développe des projets là-dessus, avec également la chambre d'agriculture, avec le monde agricole, pour pouvoir y implanter et favoriser l'implantation d'une ferme sur ce site-là.
Alors qu'est-ce qu'on fait avec le PLUI du coup ? Parce que du coup, il faut le revoir.
Non, absolument pas. Ce PLUI,
il a vocation commerciale au départ.
Qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que sur cette zone-là, on peut tout à fait implanter une ferme agricole dans la mesure où sur le PLUI, dans cette zone-là, tout l'espace de Malage n'était pas dédié à de l'imperméabilisation et une surface commerciale. Donc on peut tout à fait, sans forcément changer le PLUI, faire ça.
J'évoquais le PLUI, autre entrée de ville, Saint-Pierre-du-Mont. Le gérant d'Étoile du Moon avait un projet donc pour son cinéma, projet qui dans l'immédiat ne verra pas le jour. On a cru comprendre qu'il avait très très mal pris la chose. Moi je traîne un petit peu, j'entends voilà, les gens qui disent la ville cherche à protéger son investissement. Je parlais 1,5 million d'euros pour le cinéma Le Grand Club. Et d'autres disent bah, au bout de la chaîne, on protège finalement toujours les mêmes.
Oui, alors que ce soit clair par rapport à ça, nous...
Il est novateur ce projet aux Toiles du Monde.
Oui, oui.
Tout le monde s'accorde à le dire.
Là aujourd'hui, ce que l'on fait surtout, c'est qu'on ne protège pas tel ou tel exploitant. Moi je suis marié avec personne, on protège notre cœur de ville. Le choix qui a été fait, qu'aurait pu d'ailleurs être bénéficié à ce monsieur qui investit ou à monsieur Romanello à l'époque. Hein. C'est monsieur Romanello qui n'a pas souhaité suivre ce dossier-là et investir en centre-ville. Peu importe l'exploitant, ce que nous voulions, c'est implanter en centre-ville et en hypercœur de ville un site de cinéma. C'est d'abord de la culture du cinéma hein, avant d'être commerce. Et grand bien nous en a pris parce que quand on voit quelques années après les statistiques de fréquentation et surtout la typologie de gens qui viennent là. Ce sont des gens, il y en a un sur deux, qui ne venaient pas forcément au centre-ville avant. Et plus loin encore, il y a plus d'une personne sur deux que quand elle vient au cinéma, on a fait des enquêtes, en profite pour avant ou après faire des emplettes, aller consommer en centre-ville, etc. Donc je crois qu'on n'a aucun regret à avoir et on l'assume complètement sur l'accompagnement, qui est complètement légal d'ailleurs, d'une structure culturelle en centre-ville. En ce qui concerne l'investisseur, M. Taillandier, donc, qui est propriétaire d'Étoile du Monde, je ne sais pas comment M. Romanello lui a vendu la chose, peut-être en lui disant que c'était OK, qu'il pourrait s'agrandir. Plutôt que de dépenser son argent à faire des campagnes de communication contre l'ensemble des maires d'ailleurs, hein, parce que c'est pas l'histoire de Charles Daillot, là, c'est 18 maires qui étaient unis pour cette décision-là. Plutôt que de dépenser son argent comme ça, il est le bienvenu. Je crois qu'il est propriétaire, peut-être pas des murs, mais du fonds de commerce du Royal, en centre-ville, rue du Maréchal Bosquet, une rue que nous aimons parce qu'elle redémarre avec une librairie, je pense, on parlait de Vrac tout à l'heure, il y a un petit magasin, je ne ferai pas de publicité, mais qui...
À part les Colibris.
Voilà, c'est vous qui le dites, qui est un peu novateur. Il y a des petites choses qui se font, le café musique, on rénove, etc. Il y a quelque chose qui se passe dans cette rue-là. Bah, pourquoi ne pas imaginer de faire une salle de réalité virtuelle, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, hein, avec des réceptions, quelque chose qui est autour du ludique et du jeu et du jeu numérique et virtuel. Pourquoi ne pas le faire là? Il est le bienvenu pour investir en centre-ville.
On reste un petit peu en dehors de la ville. Pour parler de démocratie locale, le site de Nahuc, tout autour du château, vous voulez sonder les Montois. Pour quelle perspective pour ce site?
On a une idée derrière la tête, mais on veut après la valider. Un petit peu comme ce qu'on a fait à Saint-Médard, rappelez-vous. Ce quartier de Saint-Médard qui a été complètement refait. Le bourg de Saint-Médard, c'est presque un petit village à lui tout seul. Ce bourg de Saint-Médard a été refait. Nous avions des idées, nous avions fait des études, mais nous avons consulté les riverains, les habitants, les commerçants, etc. Et on a co-construit ce quartier ensemble. Et aujourd'hui, tout le monde est content, se l'approprie. Il y a des pistes cyclables, des espaces partagés, il est plus sécur. Il y a une vie qui se réinstalle. Je revois des anciens, des seniors, des papiers et mamies qui s'assoient sur un banc, qui discutent, etc. C'est absolument génial, ce quartier-là, aujourd'hui. Tout le monde plébiscite ce projet-là. Et nous avions interrogé la population. Ben, on fera la même chose, pas que pour Nahuc, pour tous les grands projets. Les 5-6 gros chantiers dont on a parlé dans notre programme feront l'objet préalablement d'une consultation citoyenne. Ça ne veut pas dire qu'on change tout. Ça veut dire qu'on se nourrit des idées des uns et des autres. Et sur Nahuc, l'idée que nous avons, c'est de pouvoir réhabiliter l'espace du hall en bas, reconnaissez qu'il n'est pas très très jojo visuellement et qu'à l'intérieur, on a une problématique d'isolation, de sol, on a une problématique d'accès PMR, de toilettes, de vestiaires.
Voilà, acoustique et j'en passe.
Voilà, il faut le refaire. Il est connecté à un château en haut qui est magnifique, qu'il faut un petit peu rafraîchir. Voilà, on ne va pas tout rénover. Peut-être profiter aussi du belvédère qu'on a sur la façade du château, qui permet d'avoir une terrasse là, qu'on utilise très peu et qui a une vue panoramique sur cet écrin de verdure qu'est Nahuc. Il faut aussi essayer de le remettre en valeur, tout ça. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir demain avoir un outil qui permettra d'accueillir un concert, un forum, un salon, un grand loto, des manifestations, peut-être même sportives ou autres, d'avoir un outil un peu adapté. Il faut qu'on retravaille un peu aussi l'aspect parking et accès, de façon à ce que ça devienne aussi un outil d'attractivité du territoire.
Les Montois dans les quartiers, justement, vous voulez doubler l'enveloppe pour les conseils de quartier. Est-ce que, à l'heure où l'on parle, où il y a eu ce grand chambardement, démocratie locale, participative, citoyenne, est-ce que les conseils de quartier sont pas devenus un petit, pas anachroniques, mais faut repenser un petit peu la chose?
Alors je dirais oui et non. La première chose, déjà, ce que l'on peut constater, quand nos amis du conseil départemental redécouvrent le budget participatif l'année dernière, ce que je constate, c'est que ça avait été mis en place dès 2009, je crois, ou 2008-2009, par notre équipe. Marie-Christine Bourdieu a coordonné tout ça. Les conseils de quartier existaient déjà.
Si je puis me permettre, c'est pas la même chose. C'est le budget du département, ce sont des gens qui votent par Internet.
Oui, sauf que il y a une notion après de budget. C'est-à-dire que faire un conseil de quartier, c'est une chose. Après, il faut lui allouer un budget. Et cette enveloppe-là, ce budget, on peut l'appeler budget participatif, parce que c'est les habitants des quartiers qui décident de faire, de refaire le square ou de mettre un banc à tel endroit.
Mais c'est la mairie qui accepte.
Oui, mais enfin, c'est sur proposition, bien évidemment, des conseillers de quartier. Alors, comme vous le soulignez, en effet, ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur ce schéma-là. Les choses ont changé, le numérique est là, il faut peut-être aller un petit peu plus loin pour redonner du peps et rafraîchir un peu le fonctionnement des conseils de quartier sous une autre forme. Ce ne sera peut-être pas exactement cette forme-là. Je pense qu'il faut élargir aussi, que la population plus largement se l'approprie. Les outils numériques permettent aussi plus facilement de recueillir des décisions un peu comme ça citoyennes. Donc oui, moderniser le fonctionnement des conseils de quartier. Et également doubler le budget participatif des conseils de quartier. On mettait 150 000 euros par an, on mettra 300 000 euros. Il faut savoir qu'il y a, voilà, sur ce mandat, c'est presque 1 million d'euros qui ont été mis à disposition, je le dis encore, des citoyens, parce que tout le monde peut s'exprimer dans les conseils de quartier.
On marque une pause dans cet entretien avec Charles Daillot, candidat donc à sa propre succession à la mairie de Mont-de-Marsan. La suite à venir dans quelques minutes.
Gardez les yeux ouverts, NDM s'occupe de vos oreilles.
On a Monday, I was arrested. On a Tuesday, they locked me in the jail. On a Wednesday, my trial was attested. On a Thursday, they said guilty and the judge's gavel fell. I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, they're about to drag me down. On a Monday, got my striped breeches. On a Tuesday, got my ball and chain.
Poor boy.
On a Wednesday, I'm working, digging ditches. On a Thursday, Lord, I begged them not to knock me down again. I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, they're about to drag me down. On a Monday, my mama come to see me. On a Tuesday, they caught me with a file.
Poor boy.
On a Wednesday, I'm down in solitary. On a Thursday, Lord, I start on bread and water for a while. I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, they're about to drag me down.
MDM, tout un monde.
Municipal J-12, donc avant que le premier tour à Mont-Marsan, ils sont trois en lice. Le collectif Marsan Citoyen, emmené par Marie Lafitte, le nouvel élan populaire avec à sa tête Jean-Baptiste Savary et notre premier invité, le maire sortant Charles Daillot pour la liste 100% pour les Montois. Grand absent de ce scrutin à Mont-Marsan, mais aussi dans les Landes, le Rassemblement National. Dès lors, doit-on se féliciter de l'absence du parti de Marine Le Pen ou au contraire déplorer la non-représentation d'un électorat estimé à entre 1000 et 2000 votants? Charles Daillot répond, mais aussi quelques points sur plusieurs i. On l'écoute.
Je ne me réjouis ni de leur absence ni de leur présence. C'est pas, voilà, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Simplement, ce que je constate, et ça par contre, je vous garantis que ça me touche et ça m'offusque un peu. La personne qui a passé 6 ans, enfin non, d'ailleurs ils ont eu du mal à être, ils étaient souvent absents, hein, parce que le problème du Front National, c'est qu'on a eu des élus qui n'étaient pas quand même très présents et pas,
Jean Thunès, le problème.
Voilà, et pas du tout actifs dans le, voilà, qui ont traversé ce mandat sans être véritablement présents. Monsieur Olnet dit dans un journal que voilà, il va pas se représenter, il ne me critique pas. Il dit d'ailleurs que je suis un bon maire ou un
oui,
bon gestionnaire.
Un bon maire.
Moi, je lui ai rien demandé à ce monsieur-là. Clairement, je ne demande pas et je ne suis pas quelqu'un qui a des valeurs proches de celles du Front National. Et c'est ce que me reproche la liste socialo-communiste et le trio Bachet, Savary, Piau, qui eux sont, à mon avis, ultra politisés.
Socialo-communiste,
j'ai presque
intéressant.
Quand je vois des prises de position des lieutenants de Savary ultra politisés qui m'accusent presque d'être un vilain raciste soutenu par l'État, c'est mal connaître mon histoire, c'est mal connaître mes valeurs. Je pense que Jean-Baptiste Savary gagnerait à museler un petit peu ses snipers, parce que sur ces sujets-là, on rigole pas avec ces sujets-là.
C'est Titon d'Audignon, hein, le secrétaire, hein, qui a écrit ça.
Peu importe. C'est aussi peut-être révélateur du degré de défaillance du fond. Hein. Moi, je préférais qu'on parle de programme plutôt que de politiser. Je constate que constamment, on essaye de nationaliser, de confisquer le débat local au Montois. Sur le Rassemblement National, je le dis et je le dis, mes valeurs sont pas celles du Rassemblement National, bien évidemment. Après que je sache, c'est un parti qui est autorisé en France. Je ne stigmatise pas les personnes qui votent pour tel ou tel parti. Par contre, je ne laisserai pas dire que je suis RN compatible, enfin tous ces termes-là. Je vois des gens qui sont presque en train de stigmatiser notre liste en disant que nous sommes...
Si c'est pas une alliance, ça y ressemble. Voilà ce qu'il y a des...
Bon, ben, je trouve que c'est pas, ça n'honore pas les personnes qui portent ces messages-là. Je me pose vraiment la question de savoir si ils auraient presque pas préféré qu'il y ait une liste. Moi, je suis relativement content qu'il n'y en ait pas. Parce que je pense que c'est peut-être aussi le signe d'un certain apaisement, peut-être. Voilà, donc je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Je ne stigmatise pas les personnes qui ont pu voter jadis sur ce parti-là. Je pense que plutôt que de se préoccuper de cet aspect très politique, mes adversaires feraient mieux de parler du fond. Faut-il qu'ils soient quand même aux abois et à la ramasse pour pouvoir en arriver à des invectives de ce type ?
Le dernier volet de cet entretien avec Charles Daillaud concerne l'image et l'attractivité de Mont-de-Marsan, dont le nombre d'habitants vient de passer en dessous de la barre symbolique des 30 000 donc, habitants, alors que paradoxalement la population, dans la globalité de notre département, ne cesse de croître. Alors quel levier activer pour rendre le Moon plus séduisant ? Peut-être en faisant un peu plus encore la part belle à la culture, notamment par une exploitation accrue des arènes ou encore avec le rôle prépondérant que doit jouer, selon lui, le musée d'Espiau-Vléric.
Il y a un léger fléchissement du nombre d'habitants sur la ville-centre, mais globalement sur notre territoire, en région à l'échelle d'un territoire, on est plutôt en progression. Il faut savoir que la natalité est aussi un élément important qui fait que bon nombre des villes moyennes comme ça de dans les terres, on va dire ça comme ça, ont une baisse d'habitants. Il faut regarder ça au niveau de l'agglomération. C'est pas de ma faute non plus si pendant des années le département a fait la promotion du littoral, des côtes. Il s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un arrière-pays. J'ai vu dans le dernier magazine touristique du conseil départemental, ils avaient carrément oublié de mettre les Madeleines, quoi. Donc c'est bien qu'aujourd'hui on revienne un peu vers une marque lande et qu'on aille vers l'intérieur des terres. Il n'y a pas que la plage. Peut-être que le développement a été porté un petit peu long, un peu trop sur le littoral. Voilà, c'est aussi une des causes aussi qui font que parfois il faut batailler pour attirer les gens sur nos territoires. En ce qui concerne la culture, d'abord la culture, on en fait une priorité. C'est le cas depuis 2008, ça s'est accéléré en 2014. On en fait une priorité, un, parce que c'est aussi l'épanouissement des plus jeunes. C'est la culture de tous, pour tous. On ne veut pas faire de l'argent une barrière pour l'accès à la culture. On essaye de faire une culture aussi hors les murs. On voit bien que le musée sort de ses murs. On voit bien que le théâtre va vers les quartiers, va vers les villages. Donc c'est ce que l'on souhaite faire. Parce que c'est une émancipation aussi, hein, la culture de la population et de la jeunesse, mais c'est tout simplement et aussi un outil d'attractivité du territoire. On le voit bien, la zone de chalandise de notre théâtre de Gascogne ne se limite pas à l'agglomération. On a des gens qui viennent du Gers. Entre Bordeaux et Bayonne, on a donc comblé là une zone avec un théâtre de niveau national désormais. On voit bien qu'il y a une progression très spectaculaire du nombre de spectateurs. Hein, et c'est 8 000 spectateurs en 2014, c'est 17 000 aujourd'hui, et beaucoup plus de représentations qu'avant. On parle du musée. Le musée, on a un joyau ici. On a quelque chose que parfois les Montois ignorent un peu. Une caverne d'Ali Baba avec énormément d'œuvres de très très haut niveau que l'on prête d'ailleurs des fois à des musées parisiens. C'est vrai que dans ce donjon, qui n'était pas fait pour ça au départ, il n'y a pas d'accessibilité pour les PMR. Et aujourd'hui, on a fait le constat qu'il fallait aérer, agrandir, réhabiliter, réinventer ce musée. Donc on a fait un projet scientifique et culturel sur les deux dernières années, de façon à être prêt aujourd'hui avec un programmiste et demain un architecte à refaire un musée, à le reconstruire pour faire de Mont-de-Marsan ce que l'on appelle de nos voeux une capitale française de la sculpture figurative, fin 19e, 20e. On peut le faire parce que contrairement à d'autres villes, on a les œuvres, on n'a pas besoin d'aller les chercher, on les a. On a aussi les liaisons avec les grands musées, etc. On a des accords avec des... Aujourd'hui, il y a là, dans la cour du musée, vous avez un Rodin qui vient d'un musée parisien, par exemple. On a tout ce qu'il faut. Il faut simplement pousser un peu les murs. Il y a une clientèle qui vient sur 3 jours dans des villes comme les nôtres pour aller au musée, pour se faire un bon match de rugby ou foot, faire une bonne table, déambuler, aller au marché le samedi matin, etc. Il y a un tourisme là-dessus. Et je pense qu'on a une carte à jouer. On a cette convivialité du Sud-Ouest, les férias, etc. Mais on peut l'avoir dans toutes les grandes villes du Sud-Ouest. Le musée, par contre, on est les seuls à avoir ça. Et donc, c'est là-dessus qu'on veut miser.
Je reviens aux arènes. Le projet des arènes, qu'est-ce qu'on fait avec ces arènes ? On les couvre ? À quoi vous pensez ?
Le sujet n'est pas de couvrir les arènes. Le sujet, il est de faire le constat que ces arènes, elles sont utilisées 4, 5, 6 fois dans l'année. Là. Elles sont sous-utilisées. c'est comment faire en sorte que cet espace devienne un petit peu plus utilisé et qu'on crée autour de cet espace une sorte d'écosystème et d'identité sur nos cultures locales. Vous savez que je suis vice-président d'Esprit du Sud 40, qui défend les cultures locales, la langue, la gastronomie, la chasse, les cultures taurines, etc., l'agriculture. Vous savez également que nous souhaitons donner un peu plus d'espace à notre régie des fêtes. Et il nous semble intéressant de construire, en proximité des arènes, une maison des cultures locales et de la Fissionne. On est la préfecture des Landes. Dans le programme un peu de visite et touristique, il serait bon, à mon avis, que l'on puisse inviter nos visiteurs, les Montois, les jeunes, mais aussi ceux qui viennent d'ailleurs, à venir découvrir nos cultures, à venir peut-être voir des expositions dans une maison qui s'est dédiée à ça, assister à une conférence, déambuler dans les coursifs des arènes, assister à une démonstration de taureaux de salon ou une démonstration avec des écarteurs. Vous savez, nos cultures, notre identité culturelle, elle est attaquée de toutes parts par des gens qui voudraient nous interdire de manger de la viande, de perpétuer nos traditions. Elle est attaquée aussi par méconnaissance, parce que vu de très loin, vu de Paris, c'est des traditions un peu étranges. Donc il faut qu'on puisse faire la promotion, expliquer aux néo-montois qui débarquent ici. On a une population qui souvent vient d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup une population tertiaire, de fonctions publiques, etc. Donc les gens peuvent être mutés, viennent. Il faut qu'on ait un outil pour qui s'acculture à tout ça, et que c'est aussi une façon de défendre nos traditions pour pas qu'elles soient menacées.
Tout ce dont on a parlé, là, et les sous dans l'histoire, comment on fait pour financer les projets qu'on a pu évoquer?
Alors, là-dessus aussi, on m'a un peu reproché en début de mandat d'être un bon gestionnaire. Il ne faut pas être trop bon gestionnaire, parce que l'argent est fait pour être dépensé au service des habitants. Par contre, je n'ai pas l'habitude de dépenser plus que ce que je n'ai dans la caisse. Vous pouvez compter sur cette équipe, vous pouvez compter sur moi et ma culture par rapport à ça. Le programme qui est là, il a été co-construit, mûrement réfléchi, et nous avons travaillé bien évidemment sur les hypothèses de financement. C'est aussi peut-être l'avantage d'être le maire sortant, parce que je suis au cœur du réacteur.
Vous alliez dire d'être l'ancien banquier.
Non. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais c'est l'avantage d'être le maire sortant, d'être au cœur du réacteur, d'avoir été aussi adjoint aux finances pendant une période, c'est de pouvoir voir un peu ce qui se fait et ce que l'on peut faire. On n'est pas à l'abri, bien évidemment, de mesures sur 6 ans qui nous viendraient, de changements gouvernementaux ou autres. Rappelez-vous, du temps du gouvernement Hollande, on a une coupe très très violente de nos dotations, des dotations de l'État, alors que rien ne le présageait, puisque dans les promesses du président de l'époque, ça n'y figurait pas, ça s'est fait le lendemain des élections. Aujourd'hui, avec ce gouvernement, ce que je constate, c'est que les baisses de dotations de l'État se sont stabilisées, il y a même eu des efforts sur l'investissement, et donc, dans la situation actuelle, le programme que l'on présente, il est mûrement réfléchi et il est financé.
Très simplement, pour pouvoir l'appliquer donc ce programme, les élections, le 15 mars, votre état d'esprit présent, là, aujourd'hui. Nous sommes le samedi, on enregistre cet entretien, samedi 29 février.
C'est très simple. Je vous dis sincèrement, je m'éclate dans cette campagne-là, même si je la trouve un peu mou, un peu molle. Je m'étonne d'ailleurs qu'on ne parle pas plus du fond. Je vois qu'il y a des petites tentatives de pique politicienne, etc. Je ne suis pas certain que ça intéresse beaucoup les Montois. Donc ça me manque aussi. Mais par contre, le côté campagne dynamique, le fait aussi de créer une équipe renouvelée, je vois que la mayonnaise, elle prend dans l'équipe. J'ai des gens, des nouveaux, qui se mélangent avec nos anciens, etc. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une vraie volonté de commencer à jouer le match. Mon état d'esprit, c'est de se dire aussi que même s'il y a une petite musique que je n'aime pas trop, qui semblerait dire que les jeux sont faits, que voilà, j'ai horreur de ça. J'ai fait du sport. On a beaucoup travaillé. Mais on n'a encore rien gagné. C'est le 15 mars, c'est peut-être le 22 mars, c'est là que ça va se jouer. Donc on est dans une campagne active, et ne rien lâcher jusqu'au 15 mars. Il ne faudrait surtout pas considérer que les choses sont jouées d'avance, parce que ce serait la meilleure façon de démobiliser les gens aussi. Les gens, il ne faut pas qu'ils restent chez eux, il faut qu'ils aillent voter. Voter pour qui vous voulez, mais allez voter. On a cette chance-là. Et voilà, donc mon état d'esprit, c'est combatif, c'est dynamique, mais c'est aussi la fierté d'un bilan. Mais l'humilité de se dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et l'humilité aussi par rapport au suffrage universel. Pour moi, c'est une première. C'est un peu un bizutage. Je disais que la dernière fois que j'ai fait une campagne, je crois que c'était pour être délégué de classe en CM2. Là, c'est tout nouveau, c'est excitant, c'est une compétition noble. On a des adversaires qui ne sont pas des ennemis. Moi, je les respecte. Je pense qu'ils ont autant envie que nous de faire bouger la ville. Il y a un match qui va se jouer et il y a une certaine excitation. Mais il me tarde quand même de pouvoir En espérant que les Montois nous fassent confiance, de pouvoir commencer et continuer à travailler pour cette ville.
Voilà pour cet entretien avec Charles Daillot dans le cadre donc des municipales à Mont-de-Marsan à J-12. Pour info, le maire sortant tiendra encore 3 réunions publiques d'ici le premier tour. La première ce jeudi 5 mars à l'école des Arènes, la seconde le lundi 9 au théâtre Le Molière. Enfin, le jeudi 12 à l'auberge Landaise dans les 3K à 19h. Prochain rendez-vous avec le scrutin Montois. Ce sera demain avec Jean-Baptiste Savary pour le Nouvel Élan Populaire, toujours à 9h45. Le retour à la musique tout de suite après ça.